Bonjour, bonjour, merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour ce direct un petit peu en retard, mais ça ne se verra pas dans les podcasts à venir auxquels vous êtes certainement aussi fidèles. Vous savez que sur les podcasts, vous allez sur le nom Comaguerre sur le site de la radio et vous trouvez les derniers podcasts en bonne et due forme, réécoutables n'importe où, n'importe quand, quand vous voulez. Et puis la rediffusion classique, habituelle, tous les jeudis de 10h à 11h du matin. Ceci dit, que de choses se sont passées la semaine dernière au moment où nous enregistrions cette émission, commençait une des histoires, une des affaires les plus extraordinaires et les plus inquiétantes et les plus douloureuses de la guerre au Proche-Orient, de la guerre entre les Palestiniens et l'État sioniste d'Israël, qui s'est traduit par quelque chose d'inattendu, d'unique en son genre. C'est une première opération ayant touché à la fois des militants de la résistance palestinienne et des citoyens. Les citoyens donc libanais, je rappelle que le Liban n'est pas en guerre avec l'État d'Israël, lui non plus n'est pas en guerre d'ailleurs, puisque Israël fait la guerre à peu près à n'importe qui, peut bombarder la Syrie sans être en guerre avec la Syrie, peut envoyer des missiles sur l'Iran sans être en guerre avec l'Iran, donc le fait de ne pas être en guerre, ça ne protège pas beaucoup. Mais là, la protection s'est avérée totalement nulle, puisque à la suite d'une opération donc extraordinaire mettant en jeu des techniques inhabituelles, quoique existantes, Israël a pu faire exploser dans la main ou dans la poche de la veste ou du pantalon d'un certain nombre de citoyens libanais des téléphones, c'est pas des téléphones portables, ce sont des petits radioémetteurs, hein, qu'on appelle ça des pagers en anglais, on appelle ça d'autres mots, peu importe, hein, ce sont des petits récepteurs radio à relativement courte portée qui sont beaucoup utilisés dans les services ou pour les opérations d'urgence ou dans les hôpitaux ou pour une équipe de pompiers qui va intervenir sur un site. On peut communiquer entre soi au sein d'une équipe, chacun appelle l'autre et en fait ça a une portée, c'est très très pratique, il n'y a pas d'interférence puis ça passe par internet, c'est de l'hertzien, c'est de la radio. Mais ça a une portée limitée, comme tous les petits émetteurs radioélectriques. Alors, ceux d'entre vous qui ont offert à l'occasion des talkie-walkie à leurs enfants, mettez-vous ça dans la... C'est à peu près ça, un petit appareillage qui permet, à la limite, de s'amuser, mais qui est très utile dans les situations d'urgence. Bon. Donc, une fois que j'ai expliqué ça, qu'est-ce que c'est qu'un pager, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, effectivement, tous les citoyens libanais, qu'ils fussent ou non, qu'ils fussent ou non membres du Hezbollah, ont eu, soit sont morts, certains sont morts directement, d'autres ont perdu la vue, d'autres ont perdu l'ouïe, d'autres sont gravement blessés ailleurs. Si vous l'aviez dans votre poche de veston ou de pantalon, vous avez une blessure au ventre. Bon, donc, plusieurs dizaines de morts, plusieurs centaines, et peut-être même plusieurs milliers de blessés dans une opération jamais vue. Jamais vu. Alors, qui s'explique comment ? Alors, c'est là que ça devient intéressant, parce que pour expliquer comment s'est fait cette affaire-là. Donc, ces appareils qui ont été utilisés donc le mardi dernier dans l'après-midi dans la zone au Liban, en particulier dans le sud Liban, mais pas que, et il semblerait même qu'il y ait eu des cas à Beyrouth même et même en Syrie, donc assez loin. Ces gens-là avaient acheté au début de cette année 2024, un de ces petits appareils, puisque à cette époque, le Hezbollah avait considéré que les téléphones portables, alors le téléphone portable comme celui que vous et moi nous pouvons avoir, était tout à fait piratable, et donc avait dit que c'était pas très sûr pour la communication, et avait porté son choix, et l'avait dit, ça c'était connu officiellement, qu'il valait mieux pour les militants du Hezbollah, dans les circonstances où ils ont à s'en servir, donc au sens rapproché et d'urgence sur une opération particulière, ils avaient intérêt à utiliser ce type de matériel. Et ce type de matériel avait été commandé, avait été livré et avait été mis en vente, mais il avait été mis en vente pour des tas d'autres situations, pour des tas d'autres gens. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs milliers de ces appareils qui étaient, depuis le mois d'avril 2024, en vente accessible et en service au Liban. Ce qui explique qu'il n'y a pas eu que des militants du Hezbollah qui sont morts et qu'il y a donc toute une série de civils qui sont morts ou qui sont blessés à l'image de ce qui est arrivé aux militants du Hezbollah. C'est bien de clarifier ça parce que beaucoup d'observateurs internationaux se sont dit, ça y est, Israël a réussi à totalement pénétrer le système de communication interne du Hezbollah, et donc à ce moment-là, le Hezbollah est fini, il ne pourra plus rien faire, tout ce qu'il pourra préparer sera éventé à l'avance, sa capacité d'action est réduite à presque rien. Alors, je ne partage pas ce point de vue, puisque les petits appareils en cause, donc les pagers pour faire simple, n'ont qu'une portée limitée, étaient servis dans des communications de personne à personne ou dans des petits groupes, mais ne faisaient pas partie de la communication stratégique du Hezbollah, qui, à ce qu'on sait, d'abord est souterraine, se fait probablement avec des liaisons téléphoniques en fil, le long des tunnels que le Hezbollah a creusés sous le sol du Liban, et donc la capacité de communication stratégique du Hezbollah n'est pas en cause. Elle est tellement peu en cause que ce que je vais vous raconter pour la suite des événements montre qu'elle ne l'est pas du tout, du tout. Mais ça a été une occasion pour, évidemment, la propagande sioniste de dire « Regardez, on leur a fait très très mal » et de faire croire que seul le Hezbollah était visé. Alors c'était peut-être ça le but du Hezbollah. Le but d'Israël, c'était d'affaiblir le Hezbollah. Mais en fait, la quantité de victimes civiles fait qu'il ne s'agit pas simplement d'un conflit militaire entre la résistance palestinienne et le régime de Netanyahou. Il s'agit d'un crime de guerre, s'en prendre à des citoyens en les tuant pour des raisons, pour aucun motif, il n'y a aucun motif qui justifie la mort de ces Libanais qui ne sont pas du Hezbollah. Donc il s'agit d'un crime de guerre, c'est passible de la Cour pénale internationale, c'est passible de sanctions. Tout ça est encore... Enfin, commence à se dire, parce que ça ne s'est pas dit le jour même ni dans les jours suivants, mais ça commence à se dire, effectivement, mettre en place un dispositif de type terroriste non prévu pour viser un adversaire militaire et tuer au passage toute une série de citoyens qui n'y sont pour rien, c'est effectivement commettre un crime de guerre. Le crime de guerre, moi je l'affirme, est commis, et je ne suis pas le seul à l'affirmer. Toute une série de juristes, depuis mardi dernier, ont dit... Examinons les faits, le nombre de victimes civiles innocentes. Il y a eu des enfants de 9 ou 10 ans qui avaient aussi un petit objet comme ça pour communiquer avec leur papa et leur maman quand ils sortaient de l'école. Bon, ils sont morts aussi. Hein. Donc, il n'y a rien à voir avec la résistance palestinienne. Hein. C'est un crime de guerre caractérisé d'Israël. C'est tout à fait clair. Et il se trouve que cette opération s'est reproduite le lendemain, mercredi, avec un autre type d'appareil, plus proche du Tokiwoki, comme vous pouvez le connaître vous, et a à nouveau fait d'autres victimes civiles, avec aussi, paraît-il, un certain nombre de victimes du Hezbollah. Voilà les faits tels qu'on peut les décortiquer aujourd'hui sur ce qui s'est passé. Le problème, c'est que cette espèce de triomphe sioniste, regardez la capacité extraordinaire, donc la capacité belliqueuse, la capacité technologique, la capacité d'espionnage d'Israël qui arrive à faire passer des appareils, à les faire modifier, car il faut bien savoir que... Et là, à peu près tous les témoignages concordent de toute la presse internationale, qu'elle soit de droite, de gauche ou du centre, etc. Ces appareils ont bien tous été fabriqués par une entreprise de Taïwan qui s'appelle Apollo Gold et qui a ce type d'appareil sur son catalogue. C'est facile à vérifier. Et après la fabrication, parce qu'ils en vendent, ils peuvent en vendre dans le monde entier, et après la fabrication, il a été introduit quelques grammes d'une substance explosive. Alors, on va dire, ça change quoi ? Ben, ça change qu'effectivement, une fois que vous avez identifié les personnes qui ont mis cette substance explosive, soit que ce soit directement les ouvriers de la firme Apollo Gold à Taïwan qui, sur la commande, qui a été livrée au Liban et ajouté l'explosif, ou que ça a été fait après sur un circuit particulier organisé par les services secrets israéliens, les deux possibilités existent. Mais toujours est-il qu'il fallait connaître la quantité exacte et la qualité de cet explosif pour pouvoir, à travers un signal radio, le faire exploser. Donc là, on est à un très haut niveau de sophistication technologique qui est atteint et qui est démontré. De là à dire que Israël a une puissance technologique industrielle extraordinaire, c'est un pas qui a été très vite franchi, y compris par les Israéliens eux-mêmes. On a dit que Netanyahou avait dansé devant sa télévision quand il avait vu le résultat du massacre. Voilà. Bon. Alors ça ne grandit pas le personnage, mais il n'y a rien pour le grandir, donc n'en parlons. Alors ça m'amène à quand même une autre question, parce que donc il y a eu, d'après tous les témoignages, et ils sont concordants là-dessus, le petit appareil s'est mis à vibrer quelques secondes, avec un message, comme quand vous allez recevoir une communication. C'est-à-dire, si vous avez ce genre d'appareil, vous appuyez sur un bouton et votre correspondant qui a l'autre appareil dit « Ah, je vais avoir un appel » et met le téléphone à l'oreille, l'appareil à l'oreille. Bon, donc ça, ça a bien eu lieu. Il y a eu un petit message, un petit bruit qui a été fait et donc chacun a sorti l'appareil de sa poche ou l'a mis à côté de son oreille. Du coup, il a perdu l'oreille ou il a perdu un œil, etc. Tout ça, vous avez compris. Bon. Tout ça, c'est fait. Alors, ce qui mérite réflexion, et c'est une réflexion que je n'ai pas beaucoup vue se développer, ce qui mérite réflexion, c'est que tout ça se passe à la même seconde pour des milliers d'appareils. Qui est capable d'envoyer un même signal sonore à des milliers d'appareils comme ça ? Alors, ça suppose un niveau de... Alors, je n'ai pas le technicien de Radio Galère sous les yeux, là, mais lui donnerait peut-être une réponse. Comment on fait pour envoyer un signal qui, dans l'instant, sonne à des milliers d'endroits, à la fois au même instant ? Et tout le monde fait, qu'il soit à des kilomètres de l'endroit où c'était mis ou autre, et il fait le même geste de rapprocher son téléphone de son oreille. Bon. Et c'est là que s'ouvre une deuxième hypothèse que j'ai retrouvée sur certains sites de géopolitique qui dit, au fond, c'est une possibilité que ce soit quelque part un centre émetteur israélien bien caché qui a émis ce signal, ou bien est-ce que c'est pas encore plus facile si ça a été fait depuis un avion ? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, il faut savoir que dans l'armée de l'air des États-Unis, il y a deux appareils qui sont des appareils d'habitude utilisés pour le transport, qu'on appelle des C-130, donc qui sont des gros appareils avec des turbopropulseurs à hélice. Donc, il y a deux appareils qui ont été spécialisés dans ce qu'on appelle la guerre électronique. Et il faut savoir que quand vous lisez la note de présentation par le constructeur de ces appareils-là, c'est des appareils qui sont en capacité, en survolant un pays, de couper toutes les communications radio de ce pays dans l'instant. Donc un système de brouillage extraordinairement puissant dès l'instant où l'avion vole à proximité du territoire du pays. Ceci veut dire que l'hypothèse qui n'a pas beaucoup été reprise, mais qui me paraît très très intéressante, d'un de ces deux avions de l'US Air Force, elle en a que deux, hein, capable donc de couper les communes, de mettre un territoire entier d'un État en dehors de toute communication possible, de brouiller toutes les communications des avions de ligne, des radios nationales, etc. Ça existe. Cet avion-là existe et la firme qui l'a construit aux États-Unis en fait la publicité. Or, elle dit très très clairement, effectivement, cet avion s'approche de la zone, il émet des signaux extraordinairement forts et bien ciblés et il arrête toutes les communications. Alors, bien ciblé, ça veut dire que cet avion-là aurait eu connaissance de la fréquence, une fréquence très très élevée utilisée par ces petits appareils, et aurait effectivement envoyé le message d'activation de l'explosif tranquillement depuis le ciel, un peu au large des côtes libanaises. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Alors l'histoire dira, on n'est qu'à 8 jours de l'événement, l'histoire dira si c'était pas la bonne. Si c'était la bonne, ça veut dire qu'en fait, les États-Unis ont laissé Israël faire le malin en disant « Regardez, j'ai monté un coup extraordinaire, j'ai tué des milliers de personnes, j'ai détruit le Hezbollah », alors qu'en fait, c'est pas eux qui l'ont fait. C'est pas eux qui l'ont fait, mais ça permet, alors tenez-vous bien, ça permet aux États-Unis, et ça a été confirmé, à contrario par l'attitude des États-Unis après l'annonce de l'événement meurtrier. Les États-Unis ont fait les innocents. Ils ont dit « mais on était au courant de rien ». Alors comme si, moi ça me fait éclater de rire, les États-Unis sont au courant de rien de ce qui se passe en Israël tous les jours, à toutes les heures. Mais c'est une farce, on ne peut pas oser dire ça. Ils ont demandé une commission d'enquête parlementaire qui va mettre 5 ans à trouver des résultats, etc. Mais que les États-Unis disent « je ne sais pas ce qui se passe », alors qu'ils ne sachent pas ce qui se passe peut-être, je ne sais pas, imaginons un coin reculé du Malawi ou de l'Uruguay où ils ne savent peut-être pas, mais qu'ils ne sachent pas ce qui se passe au jour le jour, à l'heure près ce qui se passe sur le territoire d'Israël en ce moment, c'est incroyable, c'est pas acceptable comme hypothèse. Au contraire, ils savent tout. Alors, soit ils ont regardé l'opération israélienne dont ils étaient informés, parce que je signale quand même que la commande des petits appareils qui ont explosé a été passée en février, les appareils ont été livrés en mars au Liban. Donc, on savait très très bien qui les avait achetés, on connaît l'adresse du magasin, on sait tout. Bon. Soit, donc, il y avait donc une préparation de longue date, et les Les États-Unis, un beau matin, le matin du mardi dernier, disent « Ah, mais quelle surprise !» Et puis sous-entendu, « Comme ils sont malins, ces Israéliens !» Oui, oui, bien entendu, bonne blague. Hein. Bon, donc, alors on n'en est pas au moment où ça va venir à l'ordre du jour et on va quand même se préoccuper de ça. Comment ça se fait que les États-Unis font les innocents ? C'est leur intérêt. C'est leur intérêt parce que ça permet d'une part de donner un peu de souffle à l'État d'Israël et à l'armée sioniste qui souffre par ailleurs, on va y revenir plus tard, et ça leur permet de dire « mais nous on n'y peut rien », et même ça permet à Mme Kamala Harris de dire dans ses discours électoraux « ah mon Dieu, les Palestiniens qui meurent, que c'est triste hein !» qui est le comble de l'hypocrisie, tu vois. Arrête, hein, parce que... Alors, je le signale, parce que c'est pratiquement les mêmes avions. Les deux avions qui ont été transformés donc, en outils de guerre électronique, c'est un modèle qu'on appelle le C-130. Et tous les jours, il y a des C-130 avec 200 ou 300 tonnes de munitions qui atterrissent à Tel Aviv. Et ces C-130, ils viennent des États-Unis. Hein. Donc, Mme Kamala, bah, c'est très gentil, elle dit « Ah, ça me fait de la peine, mais arrête, ne te moque pas du monde hein. ». Au moins ça. Bon. Alors, pour ce qui est de se moquer du monde, alors j'en profite parce que c'est une incidente, mais c'est quand même assez étonnant. Les États-Unis viennent de confirmer que cette semaine, Biden avait confirmé la prolongation du blocus de Cuba. Alors, on voit sur les images officielles, on le voit à son bureau, en chemise blanche, avec sa cravate bleu pâle, en train de signer un document. Alors, c'est peut-être une photo qui a été prise il y a 6 mois, ça n'a pas d'importance. Mais toujours est-il que le papier a été signé, c'est-à-dire que pour le prochain mandat du prochain président, qu'il soit l'un ou l'autre, le blocus contre Cuba est prolongé en application d'une loi de 1917, je le précise. Et ça m'amène à dire, alors je me suis dit quand même c'est assez bizarre, Biden soi-disant il est complètement dans l'incapacité de gouverner, on le voit, même si c'est une photo prise avant, signer ce décret donc prolongeant l'embargo contre Cuba, et on nous dit il est gâteux. Ah. Alors, il est peut-être gâteux, mais alors il se peut qu'on lui amène un papier, on lui fait signer, il ne sait pas ce qu'il signe, et il aura oublié dans les 5 minutes qu'il a signé quelque chose. C'est bien possible. Mais ça veut dire qu'il y a encore aux États-Unis des gens dont on ne connaît pas les... Moi, je ne les connais pas, vous ne les connaissez pas non plus. Des gens qui sont capables de faire signer ça, qui engagent le président des États-Unis pour les 4 années à venir. Donc, qu'on change de camp démocrate ou républicain, les Cubains sont prévenus, ils vont continuer à avoir des difficultés à survivre. Merci les États-Unis. Et ça amène à dire, autre question sur le remplacement de Biden, est-ce qu'au fond, ça n'a pas permis à ce que des choses pas très très catholiques, si j'ose dire, comme l'affaire des explosions de ces petits appareils, se fassent, que ce soit Biden qui les commande, mais on dit c'est pas lui, puisque lui, il est gaga. Hein, enfin, je dis comme ça, hein, pour avoir une expression familière, donc ça ne peut pas être lui. Et en fait, peut-être c'est quand même bien lui qui prend des décisions de ce type-là, pas des décisions de détail, des décisions importantes, mais comme il est gâteux, on ne va pas l'incriminer, lui. Hein. Donc il y a une espèce de double jeu. Il était gâteux, on l'enlève, et en fait, il était gâteux, mais en fait, il continue à faire, mais on ne peut pas lui reprocher, puisque soi-disant, il est gâteux. Hein. Donc on est dans une comédie invraisemblable. On n'a pas encore tout compris, mais vous voyez, j'ouvre des pistes avec plein de points d'interrogation sur l'espèce de mystification qui est en cours. Alors après, je reviens sur le terrain libanais. Donc on a les deux faits, le mardi, les pagers, et le lendemain, c'est d'autres appareils plus proches du talkie-walkie classique qui explosent, même résultat, au même endroit, donc sur le Liban, sur Beyrouth principalement, mais pas que, sur le sud Liban, et paraît-il aussi sur une partie du territoire syrien. Mais après, on dit, ben voilà, c'est terminé, le Hezbollah a perdu la bataille, il disparaît dans la bataille, et ben c'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, le Hezbollah n'a pas perdu la bataille, puisqu'il s'est manifesté d'une très très belle façon, qui venait confirmer des informations qu'il avait lui-même données en disant « Je survole avec mes drones régulièrement le territoire d'Israël, je sais exactement ce qui s'y passe, je sais où sont les zones de commandement militaire, je sais où sont les usines d'armement, et je saurai à l'occasion m'en servir ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le Hezbollah a attaqué la principale base aérienne de l'armée de l'air israélienne, donc qui est à 50 km au sud de la frontière libanaise, avec un système de roquettes, alors des roquettes à portée moyenne, hein, mais il a très bien réussi, c'est-à-dire que les images qu'il avait rendues publiques en disant « je sais exactement où sont les zones de commandement de l'armée israélienne », il s'en est servi et il a tiré. Alors il n'était donc pas si affaibli que ça et pas si dépourvu que ça. Il a tiré sur cette base aérienne. C'est la base, alors il faut savoir que c'est cette base d'où partent les fameux F-16 américains qui vont bombarder à l'occasion un peu le Liban, un peu la Syrie, qui mérite de l'être. Voilà une autre vision de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que d'une part la capacité militaire du Hezbollah n'est pas diminuée, il a perdu certainement un certain nombre de dirigeants et un certain nombre de militants, ça c'est clair, mais sa capacité de combat, elle est pas nulle. Elle est tellement pas nulle qu'en riposte à cette attaque du Hezbollah sur la base aérienne, la principale base aérienne de l'armée de l'air israélienne, là, Israël a répondu et est en train de répondre, puisque Israël se met à bombarder maintenant le sud Liban. Alors, je rappelle, il n'y a pas de guerre entre l'Israël et le Liban, mais le Liban, maintenant, la bande sud du Liban, où le gros des capacités du Hezbollah sont installées, est bombardé massivement depuis deux jours maintenant par l'armée israélienne, qui arrivera peut-être pas à grand-chose, c'est-à-dire qui manifeste là une espèce d'impuissance, c'est-à-dire que la capacité d'Israël, c'est pratiquement à l'image de la capacité militaire des États-Unis, c'est une capacité de bombardement. Et dès l'instant où l'adversaire est enterré, ce qui est le cas du Hezbollah, la capacité de bombardement ne sert pas à grand-chose. Elle sert à tuer des civils qui sont à la surface, mais elle ne peut pas détruire l'appareil. Donc un bilan plutôt en demi-teinte militairement, c'est-à-dire que le Hezbollah n'est pas anéanti, loin s'en faut. Il a perdu des hommes, certainement plus que l'armée israélienne, mais il a montré qu'il n'était pas anéanti, sa capacité militaire est maintenue et il va s'en servir, c'est-à-dire que maintenant, de toute façon, comme Israël se met aussi à bombarder Beyrouth, les banlieues sud de Beyrouth, etc., la guerre est commencée. Là aussi, je pense aussi que le Sénat des États-Unis va demander une enquête. Mais tout le monde voit, le monde entier voit que la guerre entre Israël et le Liban, elle est commencée. Qu'on appelle ça comme on veut, les hostilités, la représailles, la riposte et tout. Il y a la guerre, ils ont décidé la guerre. C'est-à-dire que Israël, comme il l'a toujours fait, décide de mener la guerre à tel ou tel endroit et il le fait. Ça clarifie un peu la situation telle qu'elle s'est déroulée sous nos yeux. Et ce que ça amène aussi à rappeler, c'est qu'il est sorti récemment des documents sur, vous savez, rappelez-vous de la présentation qu'on nous a faite du fameux 7 octobre 2023, où on a dit que les terroristes du Hamas, alors je mets les énormes guillemets, hein, que donc les combattants du Hamas étaient attaqués un certain nombre de colonies israéliennes, qui était tout autour de la bande de Gaza. Il faut savoir que ces colonies israéliennes, puisque les colonies il y a, sont des colonies qui ont été installées volontairement par Israël pour encercler Gaza et permettre à l'armée israélienne et aux agents secrets et aux opérations spéciales de l'armée israélienne de se faire directement sur Gaza. C'est-à-dire qu'il y avait un cordon policier organisé autour de ces bases donc, qui encerclent Gaza, qui était installé dans le désert dans des conditions très précaires, puisqu'on est dans les débuts du désert du Negev, le grand désert du sud-est israélien, et qui était destiné à faire mal à la Gaza en permanence. Et d'ailleurs, Israël a sans arrêt fait mal à Gaza. Et c'est pas... Même après 2006, quand Gaza s'est un peu autonomisé du reste de la résistance palestinienne, il y a toujours eu des attaques. Tous les 2-3 ans, il y avait des attaques, etc., auxquelles, jusqu'à présent, et jusqu'au 7 octobre 2023, les Gazaouis n'avaient jamais riposté. Ils avaient pris les coups, enterré leurs morts, soigné leurs blessés, et ça s'arrêtait là. Le changement historique du 7 octobre, c'est qu'ils ont décidé de sortir de leur prison. Prison dans laquelle ils étaient bien gardés par ces colonies alentour. Leur rôle commence à être un peu éclairci, et c'est tant mieux. La guerre continue sous d'autres formes. Alors il y a la forme informationnelle, on nous fait croire que c'est Israël qui a organisé l'histoire des explosifs, des petits appareils qui explosent, mais de toute façon, Israël veut qu'il n'y ait plus d'informations possible sur ce qui se passe vraiment sur son territoire aujourd'hui, veut organiser une espèce de censure sur toute information, et ils s'en sont pris, alors c'est assez intéressant à noter, ils s'en sont pris au site de Al Jazeera, donc qui est la chaîne qatarie qui est très connue, qui a une autorité internationale et qui couvre tous les événements politiques internationaux, ils s'en sont pris au bureau de Al Jazeera à Ramallah, qui a été occupé, détruit ou en partie, enfin qui est dans l'incapacité de... Et donc ça veut dire qu'Israël a décidé que désormais plus personne ne pourrait dire quoi que ce soit et ne pourrait voir quoi que ce soit sur ce qui se passe sur le territoire de la Palestine. C'est très inquiétant, parce que ça augure mal des suites, c'est-à-dire qu'ils sont décidés d'aller jusqu'au bout de l'horreur, sans témoins, sans le plus de témoins possible. Alors ils se trompent un peu dans la mesure où il circule quand même, la preuve, des drones du Hezbollah, des photographies par des satellites et tout, mais ils ne veulent plus de témoins physiques, c'est-à-dire que journalistes occidentaux, alors je ne parle pas des 150 journalistes qui ont déjà été assassinés à Gaza depuis le mois d'octobre, mais tout journaliste étranger qui voudra aller voir ce qui se passe en Israël risquera sa peau. Donc il y aura en plus de visa probablement, ça devient très très difficile. Bon. Ça fait partie d'un état de guerre affirmé d'Israël. La résistance elle-même ne dort pas. Donc la réaction du Hezbollah donc, est manifeste, est claire et efficace. Et puis il y a d'autres réactions, puisqu'il y a un équivalent du Hezbollah aujourd'hui qui fonctionne en Irak, qui est soutenu par le gouvernement irakien, et qui commence des actions directes par des drones sur le territoire d'Israël. Ça, c'est bien. Il y a deuxièmement, et troisièmement plutôt, les attaques des Houthis à travers des missiles hypersoniques, dont certains arrivent jusqu'à Tel Aviv sans problème, et donc passent le fameux dôme de fer qui protège Israël, soi-disant, de toute attaque extérieure. Donc on a plusieurs résistances, le Hezbollah, la résistance interne donc de la Palestine à Gaza et un peu en Cisjordanie. Alors la Cisjordanie pose problème en ce sens que la violence de l'attaque des colons israéliens sur la population palestinienne de la Cisjordanie a été telle qu'ils sont un peu dépassés pendant ces premières périodes parce que la violence est très très grande et qu'ils n'étaient pas équipés et que ça ne faisait pas partie des consignes du Fatah de s'organiser militairement pour résister aux colons. Colons qui sont, eux, super armés, protégés et encouragés par l'armée israélienne, couverts pour quelques crimes qu'ils commettent. Et donc, effectivement, il y a un petit retard de la résistance palestinienne sur la zone de la Cisjordanie. Mais ils ont compris que, de toute façon, c'était ça ou mourir. Donc, ils vont être obligés de résister, eux aussi, militairement. Ce qui va contribuer à mieux unifier la résistance palestinienne, puisqu'ils ne pourront pas dire « Ah ben moi, je suis à Ramallah, c'est tranquille, tant pis pour ceux de Gaza. » Et ceux de Gaza sauront que ceux de Jénine ou Ramallah sont logés à la même enseigne. Alors à Jénine, il y a quand même un camp de réfugiés de 15 000 personnes qui a été attaqué militairement par l'armée israélienne. Donc on est bien dans la volonté, il faut être clair sur les termes, la volonté d'éliminer totalement la population palestinienne est en train de s'exercer. Et on est un peu au bout du processus, c'est-à-dire que tous les artifices consistant à dire on va un peu laisser des droits aux Palestiniens, leur permettre de faire ci ou de faire ça sous contrôle, tout ça, tout cet argumentaire est en train de voler en éclats. Israël et la direction sioniste de Netanyahou a décidé que pour rester là où elle était, il fallait que tous les Palestiniens meurent ou s'en aillent. Le jeu est parfaitement clair, il n'y a plus aucun doute. J'en parlerai d'ailleurs prochainement au cours d'une émission, puisque j'ai accumulé des documents. Vous savez, Israël, dans son absence de définition de ses frontières, dit « Israël, en fait, ça va du Nil à l'Euphrate ». Écoutez bien, du Nil à l'Euphrate, c'est-à-dire que ça englobe une partie de l'Égypte, hein, et ça va prendre tout le territoire syrien. Bon, rien que ça. Bon, ça veut dire qu'effectivement, c'est ça leur ambition, c'est-à-dire enlever tout régime qui ne soit pas... Ben, ils se sentent un peu à l'étroit dans ce petit territoire que leur a attribué l'ONU, et donc ils veulent éliminer toutes les populations et tous les gouvernements arabes à 500 km à la ronde. Voilà le projet cru, mortel, enfin mortifère du gouvernement israélien, et il faut voir que l'équipe de Netanyahou n'a plus que ça au programme. Il n'y a pas de bricolage, de « on va trouver un modus vivendi, un accord mal fichu ». Non, non, on veut qu'il meure ou qu'il s'en aille. C'est tout. Et face à ça, il serait important, je vais y venir, que la, ce qu'on appelle la communauté internationale ouvre clairement les yeux. C'est bien ça qui est en train depuis le 7 octobre, c'est bien ça qui est en cours, donc c'est bien ça, c'est bien ce problème-là que la communauté internationale, comme on dit, doit affronter. Alors elle y va d'une certaine façon qui est très insuffisante. Ça m'amène à vous parler de l'ONU. L'ONU, vous le savez, donc, a commencé son Assemblée générale annuelle donc hier, avec toute une série de réunions qui ont précédé l'Assemblée générale elle-même. Et au cours d'une série de réunions donc, préalables à l'Assemblée générale, il a été soumis au vote une déclaration concernant le conflit israélo-palestinien qui donne suite au fameux avis de la Cour internationale de justice. Alors là, c'est très très intéressant dans son contenu. C'est-à-dire que dans ce document donc, qui a été validé par le vote donc, des États membres de l'ONU, avant que ce soit l'Assemblée générale elle-même, il a été constaté, je vais vous donner les principaux enseignements, il a été constaté que l'avis qu'a donné la Cour internationale de justice, alors vous savez que la Cour internationale de justice, donc, c'est une juridiction de l'ONU qui a travaillé sur la question de la colonisation de la Palestine par le régime israélien, sur sa demande, c'est une demande qui remonte de l'Assemblée générale de l'ONU de la fin 2022, et à l'issue de ce travail qui a été fait par cette juridiction, avec les 17 magistrats qui font un vrai travail, c'est pas un article de journal, c'est un travail de 80 pages qui explique pourquoi, comment, les textes, etc. Donc c'est un travail très construit et très solide. Et donc ce travail, alors je vais le résumer par la lecture de quelques paragraphes très très senti de cet avis qui a donc été validé par l'Assemblée générale réunie en début de semaine. Alors je vais vous donner les principaux enseignements. La présence continue d'Israël dans les territoires palestiniens occupés est illicite. Je souligne le terme illicite, c'est-à-dire que les Palestiniens sont chez eux et Israël n'est pas chez lui. Ça, c'est une autre lecture des événements, mais ce n'est pas du tout celle qu'on nous met sous les yeux d'habitude. Deuxièmement, Israël est dans l'obligation de mettre fin à sa présence illicite dans les territoires palestiniens occupés dans les plus brefs délais. C'est écrit et c'est voté comme ça à la majorité. Israël est dans l'obligation de cesser immédiatement cette nouvelle activité de colonisation et d'évacuer tous les colons du territoire palestinien occupé. Vous entendez bien ? C'est l'ONU qui vote ça. C'est pas vous et moi, c'est pas un journaliste en colère ou un Palestinien en colère. C'est l'ONU. 140 ou 125 États de l'ONU qui approuvent ce texte. Israël a l'obligation de réparer le préjudice causé à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans le territoire palestinien occupé. Alors imaginez, vous êtes paysan, quelque part vers Ramallah, on vous a coupé 200 oliviers, vous faites estimer par un expert le prix d'un olivier en âge de produire, c'est-à-dire avec un certain âge, et vous faites indemniser, vous allez voir Netanyahu, il dit « tu me dois tant, ça fait tant par olivier coupé ». Parce que vous m'avez fait mourir de faim. J'ai plus d'olivier pour mourir. Bon, ça, c'est écrit. Tous les États sont dans l'obligation. Alors écoutez, ça concerne tous les autres. Tous les États sont dans l'obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite d'Israël dans le territoire palestinien occupé et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé. Vous entendez bien ? C'est-à-dire que l'avion cargo qui amène tous les jours des bombes et des missiles, hein, le C-130 depuis les États-Unis, ben il ne devrait pas. C'est très très important. Les organisations internationales, y compris l'Organisation des Nations Unies, sont dans l'obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite d'Israël dans le territoire palestinien occupé. Et ça se finit par l'Organisation des Nations Unies, et en particulier l'Assemblée Générale, qui a sollicité le présent avis, et le Conseil de sécurité, doit examiner quelles modalités précises et mesures supplémentaires sont requises pour mettre fin dans les plus brefs délais à la présence illicite d'Israël dans le territoire palestinien occupé. Bon, alors, vous voyez la force juridique du texte, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est-à-dire, il y a un monsieur qui est venu prendre la place d'un autre, on dit « maintenant tu n'es pas chez toi, va-t'en ou indemnise et tout ». Bon. Alors ça, c'est déjà, ça n'a jamais été voté dans ces termes-là à aucun moment par l'ONU. Ça, c'est une innovation. C'est une innovation qu'on doit, bien sûr, à cet avis de la Cour internationale de justice, mais cet avis de la Cour internationale de justice, il n'aurait jamais été produit si les Gazaouis et si le Hezbollah n'étaient pas rentrés dans l'action. Il est le résultat de la lutte des Palestiniens et de tous ceux qui les soutiennent. Car les gens qui subissent, je veux dire, réfléchissons, vous voyez des images, toute personne qui vit à Gaza, qui n'est pas forcément un adhérent du Hamas, et qui arrive à supporter ce qu'il supporte, est une personne qui participe au combat, qui mérite d'abord notre admiration, notre estime, et fait preuve d'une capacité de résistance qui finalement a de l'effet même sur l'opinion des juristes. C'est-à-dire, s'ils ont ce courage-là, cette détermination, c'est qu'effectivement ils se battent pour une cause juste. Et ça va bien au-delà de tous les combattants du Hezbollah et du Hamas. C'est ça qu'il faut dire. Alors bien entendu, quand on a dit ça, hein, les Palestiniens sont chez eux, ils ont le droit pour eux, les Israéliens ne sont pas chez eux, ils n'ont pas le droit, ils sont illicites sur ce territoire. Bon, c'est très très important pour la suite des événements. Mais en fait, une fois que l'Assemblée générale de l'ONU a voté ça, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Parce que les seules décisions pratiques que peut prendre l'ONU, donc du genre envoyer des troupes d'interposition, des casques bleus, etc., ce n'est que le Conseil de sécurité qui les prend. C'est l'Assemblée générale ne le peut pas. Et donc, effectivement, au Conseil de sécurité, s'il arrive des demandes en disant il faut envoyer une force d'interposition et des casques bleus pour empêcher l'armée israélienne de tirer sur les combattants palestiniens, je ne pense pas que les États-Unis voteront pour. Donc, on est paralysé. C'est intéressant au sens que cette paralysie qui est maintenant visible et qui, sur le cas le plus saignant, le plus dramatique, le plus tragique qu'on a sous les yeux, qui est le cas de la Palestine et de Gaza, l'ONU va être obligée de rectifier sa façon de travailler, forcément. Alors c'est déjà en cours, il y a des travaux qui sont commencés, alors on parle de faire rentrer des nouveaux au Conseil de sécurité, on parle de différentes mesures de ce type-là, mais ce qui est important, c'est qu'il faut que tout ceci débouche sur un autre mode de prise de décision de l'ONU. C'est-à-dire, ce vers quoi il faut qu'on aille, et là je vous donne un avis comme à guerre, qui vaut ce qu'il vaut, mais il faut qu'on aille vers une espèce de parlement international, c'est-à-dire qu'il faut que l'Assemblée générale de l'ONU, les 180 États qui en sont membres, 190 qui en sont membres, soient en capacité, dès l'instant où il y a suffisamment d'États représentant une proportion suffisante de la population de l'espèce humaine sur la Terre, qui disent « on veut ça », et à ce moment-là, l'ONU le fait, passe à l'acte. Alors on peut imaginer que, par exemple, s'il faudrait, je sais pas, 75% des États qui votent pour une intervention militaire de l'ONU contre Israël, bon, ça passerait. Et puis, en tempérant ça, il ne faudrait pas que ce soit que les petits États, Monaco, le Liechtenstein, le Palau, les îles Marshall, qui votent. Il faudrait que ça représente une proportion suffisante de l'espèce humaine. Mais c'est vers ça qu'il va falloir nécessairement aller, c'est-à-dire ou bien l'ONU évolue dans ce sens, ou bien l'ONU s'écroulera dans le ridicule de voter ce que je viens de vous lire et de le laisser faire dans l'impuissance. Ça, c'est pour la suite des événements. Voilà. J'avais beaucoup parlé de ce dossier, mais il est très très intéressant. Ensuite, je voulais vous parler un tout petit peu, mais ça a un sens dans l'actualité, de ce qui se passe en ce moment en Bolivie. En Bolivie, il y a eu, on le sait, on le sentait venir, un conflit à l'intérieur du mouvement pour l'alternative socialiste, donc fondé et dirigé par Evo Morales, l'ancien président dont on vous rappelait. Et puis, il y a aujourd'hui à la tête de l'État bolivien un président élu dans des conditions tout à fait normales, qui s'appelle Luis Arce, qui est aussi membre du MAS lui-même. Et le premier nommé, donc Evo Morales, est en train d'entamer une marche pour imposer, contre l'avis du tribunal suprême bolivien, sa possibilité de refaire un nouveau mandat, il n'en a plus le droit d'après la Constitution, pour redevenir président de la Bolivie l'année prochaine. Alors, c'est C'est extrêmement triste parce qu'il s'agit quand même d'un pays qui a une histoire douloureuse, un pays qui a échappé à un coup d'État organisé par la droite et les États-Unis en 2019, qui s'en est sorti un peu miraculeusement grâce à la mobilisation populaire. Et c'est assez triste de voir qu'effectivement, deux leaders de ce même mouvement pour l'alternative pour le socialisme sont en train de s'affronter pour prendre le pouvoir, enfin l'un pouvant vouloir remplacer l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça se passe à ce moment-là ? Pourquoi ça se passe à ce moment-là ? Alors, il y a une première raison qui est importante, qui est que, en fait, la Bolivie faisait partie des États qui devaient poser leur candidature pour adhérer au BRICS le mois prochain à la réunion au sommet des BRICS. Or, il se trouve que, mettons-nous à la place des membres des BRICS actuels, Chine, Russie, Brésil, Inde, etc., c'est très très difficile de faire entrer dans les BRICS un État qui est au bord de l'affrontement où deux courants politiques appartenant à la même famille politique au départ sont en train... Bon, un État un peu en très mauvais état, en état de déliquescence. Donc ça serait très délicat pour les BRICS de dire on vous prend alors qu'ils ne sont pas en situation de se gouverner eux-mêmes. Donc ça, je pense, c'est une des causes, au moins du choix du moment d'Evo Morales, c'est-à-dire torpiller la candidature de la Bolivie au BRICS. Le deuxième enseignement, il est d'un autre type, parce que le MAS est un mouvement. Le MAS est un mouvement qui s'est créé pour créer ce qu'on a appelé la République multiculturelle de la Bolivie, tenir compte de la majorité indienne de la population bolivienne, et qui s'est créé en regroupant toute une série d'associations, de coopératives, de syndicats, de mineurs, etc., représentant la diversité du peuple bolivien, qui est une diversité historique, et qui sont exprimés à travers leur arrivée au pouvoir via Evo Morales. Et en fait, on mesure là la limite de ces mouvements, c'est-à-dire que en fait, ces mouvements qui sont une espèce de cartel de groupements d'associations, dès l'instant où celui qui est à la tête du mouvement arrive à sélectionner les gens qui lui sont favorables et à mettre de côté les gens qui ne lui sont pas favorables, on a un gouvernement qui n'est pas très très solide, on a des histoires de copinage, enfin, je ne vais pas m'insurger contre ce type de mouvement, mais on a mesuré en France, avec la France insoumise, le fait qu'un mouvement qui n'a pas une structure solide, qui n'est pas organisé avec des systèmes de vote, de délibération, de représentation, ça peut tirer un peu dans tous les sens. Les ambitions individuelles s'expriment et finalement, il y a la difficulté à prendre une position commune, à s'y tenir et à appliquer une politique. Donc le MAS est victime de ce mode de faire de la politique, c'est-à-dire c'est bien au moment où ça monte, tout le monde vient, on se regroupe, on s'embrasse, on se serre dans les bras, et puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'on n'est pas d'accord sur tout, et au lieu de mettre sur pied un système de prise de décision, on décide, c'est comme ci ou c'est comme ça, on vote, il y a une majorité qui s'exprime, et puis après on applique le choix de la majorité. Autrement, chacun fait sa vie dans son coin, et il y a des moments où chacun ne veut pas travailler avec les autres. Je pense qu'on en est là en Bolivie, et c'est tout à fait regrettable pour le peuple bolivien qui est un peu pris en témoin de sans pouvoir y faire grand-chose. Voilà pour la Bolivie. Autre chose pour, alors je prends différents sujets, pour l'Europe. L'Europe, bon, on sait qu'elle ne va pas très très bien, mais le Parlement européen existe, puisque vous savez que le Parlement européen a été élu et qui peut voter des résolutions. Alors, ça ne porte pas beaucoup à conséquence les résolutions du Parlement européen, puisqu'en fait, c'est un peu comme un vote à l'Assemblée générale de l'ONU, j'allais dire, bon, vous votez des textes, et puis en fait, comme ils ne sont pas applicables, puisqu'en fait, la Commission européenne n'obéit pas au Parlement européen, il n'est pas là pour ça. Le Parlement européen n'est pas un vrai Parlement, c'est une espèce d'assemblée, de groupe de pression politique qui disent leur avis sur des sujets, mais qui n'ont pas accès, enfin, qui ne peuvent pas déboucher sur des mesures concrètes. Alors ce qu'a fait l'Union européenne, le Parlement européen plutôt, pour être très précis, c'est le 19 septembre, donc il y a quelques jours, il a voté une résolution sur la pérennité du soutien financier et militaire apporté à l'Ukraine par les États membres de l'Union, donc par les 27. Et j'en prends deux extraits. Le Parlement européen exhorte les États membres. Alors je cite « exhorte », ça veut dire il dit « faites ça », mais en fait il n'a pas de pouvoir, puisque ce n'est pas un vrai Parlement, il n'a pas le pouvoir, mais il donne une intention. et donc exhorte les États membres à lever immédiatement les restrictions sur l'utilisation des systèmes d'armes occidentales livrés à l'Ukraine contre des cibles militaires légitimes sur le territoire russe, car celles-ci entravent la capacité de l'Ukraine à exercer pleinement son droit à la légitime défense en vertu du droit public international et exposent la population et les infrastructures de l'Ukraine aux attaques. Ouais, c'est tout à fait clair. Donc, allez-y, livrez des armes, continuez. C'est, même si les États membres ne l'ont pas fait, mais on les encourage. Et puis, deuxième extrait, le Parlement européen souligne que les livraisons insuffisantes de munitions et d'armes, ainsi que des restrictions à leur utilisation, risquent de compromettre les mesures prises jusqu'ici et déplore vivement la baisse du volume des fonds pour l'aide militaire bilatérale accordée à l'Ukraine par les États membres, malgré les déclarations résolues faites au début de cette année. Demande donc à nouveau aux États membres de respecter leur engagement pris en mars 23 de fournir à l'Ukraine 1 million d'obus d'artillerie, d'accélérer les livraisons d'armes, en particulier des systèmes modernes de défense antiaérienne, ainsi que d'autres armes et munitions destinées à répondre à des besoins clairement identifiés, dont des missiles Taurus, etc. Préconise de mettre rapidement en œuvre les engagements pris dans le cadre des engagements conjoints de l'Union et de l'Ukraine en matière de sécurité, réaffirme sa position selon laquelle tous les États membres de l'Union et alliés de l'OTAN devraient s'engager collectivement et individuellement à soutenir militairement l'Ukraine à hauteur d'au moins 0,25% de leur PIB chaque année. Donc vous voyez, c'est limpide. Et alors, je mets ça face à la politique qui est en cours de mise au point, de mise au clair par le nouveau gouvernement français. Alors le gouvernement français, vous avez compris, va annoncer qu'effectivement le déficit colossal dans lequel se trouve la France va obliger à des sacrifices de la population. Mais en même temps, il va dire « Ah oui, mais le Parlement de Strasbourg m'a dit qu'il fallait continuer à envoyer des armes et à donner de l'argent à l'Ukraine. Alors ben ça, je respecte la demande du Parlement européen, je vais le faire. » Donc on va vous demander, à vous, citoyens français, de payer un peu plus d'impôts, de payer peut-être des cotisations à la Sécurité sociale plus chère ou la CSG plus chère, parce qu'on va continuer à envoyer des armes à l'Ukraine, qui en fait, on sait l'usage qu'elle en fait. Bon. » Alors ça, c'est une des contradictions, mais vous en verrez d'autres, puisque j'en suis à parler du gouvernement français. Le déficit est probablement au niveau de 6% du produit intérieur brut. Le budget 2025, qui doit être présenté, j'espère, dans les jours qui viennent au Parlement français, est le budget qui a été préparé par M. Attal, quasiment à l'identique, car en fait, comme M. Barnier n'avait pas de ministre, il n'a pas travaillé. Mais c'est Attal qui a fait les dossiers. Hein. Donc, M. Barnier va avoir une note pour une copie qui a été rédigée par un autre. Hein. Bon, ça, c'est classique. Bon, hein. Mais c'est tout prêt, puisque de toute façon, il y a une échéance. Normalement, le budget doit être présenté le 1er octobre, donc la semaine prochaine. Et donc, Barnier, ses ministres arrivent, il les a pris ou il les a trouvés, des bonnes volontés. Et puis, il a quand même gardé quasiment une dizaine, je n'ai pas le compte exact en tête, de ministres macronistes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir perdu les élections législatives, vous pouvez être détesté par une partie importante d'une majorité de la population française, et vous gardez les ministres que vous voulez. Et vous gardez en particulier le ministre de la guerre, qui est un des plus va-t-en en guerre qui existe, et qui va insister à dire « mais il faut absolument envoyer des armes et de l'argent à Zelensky ». Bon. Voilà le gouvernement français tel que nous l'avons. Donc, travail fait par l'équipe Attal sur les consignes macroniennes, et maintenant dans un gouvernement qui est moitié LR, moitié macronien, avec des tendances carrément d'extrême droite. Je pense au nouveau ministre de l'Intérieur, puisqu'en fait, on a un Darmanin plus, sous la personne de M. Retailleau, qui a été, d'ailleurs, en tant que responsable de la majorité LR au Sénat, qui a été un des appuis à la politique de Darmanin d'un bout à l'autre de son mandat. Donc on a une espèce de super Darmanin au ministère de l'Intérieur. Alors pour ceux d'entre vous qui ont voté pour le nouveau Front populaire, c'est une façon de vous faire un énorme bras d'honneur. Hein, et prenez-le comme ça. On vous a insulté, on vous a pris pour des imbéciles. Hein, et on va continuer à essayer de vous prendre pour des imbéciles. Donc il faudra trouver une riposte collective à cette situation. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Je regarde l'heure parce que je ne sais plus où on en est du fait qu'on a commencé en retard. Il nous reste combien ? 5 minutes ? Alors, rapidement, alors, t'as une petite histoire, c'est du John le Carré, ça, c'est du roman policier. Le Bélarus vient d'arrêter un espion japonais. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un japonais au Bélarus. Couverture parfaite pour un espion, une petite entreprise d'import-export qui faisait son travail, qui avait des comptes en règle et tout. Des cours de japonais dans une université du Bélarus, un mariage qui s'avérait un mariage blanc avec une citoyenne du Bélarus, nickel, hein, il était couvert. Et quand même, ils ont commencé à s'intéresser à ce monsieur. Il s'est avéré qu'en allant chez lui, ils ont trouvé 10 000 photos de toutes les installations civiles de la République du Bélarus. Les ponts, les autoroutes, les hôpitaux, les bâtiments officiels et tout, tout était prêt pour dire où est-ce qu'il fallait bombarder si jamais l'Ukraine se mettait à bombarder le Bélarus. Ce monsieur était installé dans une petite ville du sud-est de la Bélarus, qu'on appelle Gomel, qui est à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Donc on peut imaginer que nuitamment, les gens allaient chercher des photos pour préparer une attaque contre le Bélarus. C'est pour dire que, c'est pas simplement une anecdote, c'est pour dire qu'aujourd'hui, vous pouvez tomber sur un Ukrainien à Bamako, c'est un espion. Enfin, vous pouvez tomber sur un Japonais donc en Bélarus, c'est un espion aussi. Vous pouvez tomber, je ne sais pas moi, sur un... Un Philippin en Bolivie, c'est un espion. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte qu'on est dans un affrontement mondial entre le bloc occidental, OTAN, voilà, OTAN plus Japon, et donc Nouvelle-Zélande et Australie, et tous les autres. Hein. Alors il y a l'affrontement qui a été résumé par des géopoliticiens, il y a le milliard de riches. Alors, nous, Français, on est classés dans les riches. On est classés dans les pays riches. Ça ne veut pas dire que chez nous, il n'y a que des riches. On est très loin d'être le cas. Mais en fait, il y a 1 milliard de gens qui vivent dans des pays où il y a encore un peu de sécurité sociale, des hôpitaux qui fonctionnent plus ou moins bien. Ça ne va pas durer, mais enfin, c'est encore ça. Et puis, il y a les 7 milliards d'autres qui voudraient bien vivre décemment, surtout qu'on les laisse vivre en paix, sans chercher à les bombarder, sans envoyer des espions partout, etc. C'est ça le face-à-face. Et ça amène à ces mélanges géographiques. Il faut savoir, j'y pensais aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement de l'Équateur, petit pays, qui a eu un président progressiste qui a été renversé, M. Correa, et qui aujourd'hui est présidé par le principal vendeur mondial de bananes. C'est le milliardaire de la banane, M. Noboa. Bon. Et en fait, M. Noboa, donc qui est un milliardaire, mais en même temps un voyou, il a importé à Quito et surtout à Guayaquil, pour protéger ses plantations de bananes et surtout faire peur aux ouvriers agricoles, la mafia albanaise. Vous allez trouver à Guayaquil des Albanais qui sont en fait des flics privés du milliardaire de la banane. Bon, dans quel monde vivons-nous ? Ben c'est un monde très très compliqué où le fait de juger à quelqu'un sur la mine est très trompeur parce que vous avez des gens de partout qui obéissent à des intérêts différents. Donc ne pas se dire lui il est comme ci, lui il est comme ça, non, c'est plus vrai du tout, tout est mélangé. Et c'était pour ça que je vous citais l'histoire de l'espion du Bélarus. Ensuite, je voulais vous parler très rapidement de ce qui concerne le Centre européen de recherche nucléaire. Alors le CERN, ça s'appelle comme ça, est un centre européen de recherche nucléaire qui est installé dans la banlieue de Genève et qui a installé depuis sa création, donc il y a assez longtemps, des accélérateurs de particules, c'est-à-dire que c'est un appareil qui permet de faire avancer la réflexion et la recherche sur l'atome et les subdivisions de l'atome, donc la recherche fondamentale en physique nucléaire. Et jusqu'à présent, comme son nom l'indique, le CERN accueillait des Européens de toutes origines, y compris des Russes. Bon. Et le CERN, dans le cadre de cette bataille, c'est pour ça que je relis les deux sujets, dans le cadre de cette bataille entre le milliard des riches et les autres, puisque les Russes sont classés chez les autres, les 7 milliards autres, a décidé, ça prendra effet le 1er décembre, d'expulser de son installation de recherche tous les techniciens, ingénieurs et savants, en général de très haut niveau russes, qui y travaillent. Il y en a quand même 500. Donc là aussi, on est dans une espèce de rupture, c'est-à-dire tous les liens qu'il pouvait y avoir entre ce bloc du milliard, le milliard des ceux qui sont à l'aise, et les 7 milliards d'autres, ce bloc est en train de se refermer sur lui-même. Donc on est en train de se transformer, de nous transformer, nous habitants d'un de ces pays du bloc des riches, dans une espèce de ghetto de riches qui veut du mal systématiquement à tous les autres. C'est très très dangereux comme suite des événements, parce qu'on finira par être détesté, hein, vous, moi, n'importe qui d'entre nous dans la rue, parce qu'on est à la merci du gouvernement qui déteste la majorité de la population humaine. Donc c'est un très très mauvais choix qui est fait pour le long terme. Alors il faut savoir que les Russes ont accepté le jugement, qu'ils vont rapatrier les 500 savants qui travaillent donc à Genève et qu'ils vont les remettre au travail sur des installations nouvelles qui vont remplacer l'accélérateur de particules de Genève. Alors ils y mettront l'argent qu'il faut, mais ils avanceront comme ils l'ont fait à d'autres périodes, c'est-à-dire ils sont déjà assez avancés en matière nucléaire et ils vont continuer à l'être et probablement ils feront peut-être même un meilleur travail que le travail du CERN. Je me suis posé la question d'ailleurs, puisqu'on est à Marseille dans la région proche du fameux projet ITER, qui est un projet qui implique des scientifiques russes, chinois, etc. Je me suis demandé si on n'allait pas vivre un épisode du même type en disant « ceux de l'Est, on n'en veut plus, ceux des pays de moins développés, on n'en veut plus, on reste entre nous ». On verra. C'est probablement le chemin que ça va prendre. Et je vais finir très rapidement pour vous dire quelques mots du Sri Lanka. Alors Sri Lanka, vous savez, c'est le nouveau nom de l'ancienne île de Ceylan, qui est un État indépendant. Et ça a fait la une d'ailleurs de toute la presse internationale dès hier ou même dès dimanche, puisque le Sri Lanka avait organisé le samedi, donc écoulé, une élection présidentielle et qu'il est arrivé à la tête de cette élection un monsieur qui n'est pas connu, qui s'appelle monsieur Anura Kumara Dissanayake, qui est membre d'un groupement de partis qui s'appelle le Front de Libération Nationale Populaire. Alors c'est très, très intéressant de regarder les titres de la presse, la presse bourgeoise, comme on dirait, parce qu'on dit « ce monsieur ex-marxiste repenti, ce monsieur ancien communiste, etc. Hein, » on en fait en disant « ça y est, la gauche, alors la gauche est au pouvoir à Colombo ». Alors ça mérite d'être regardé un petit peu plus près. Parce que dans l'histoire récente de ce pays-là, il y a des émeutes populaires qui ne sont pas vieilles, puis elles remontent à 2022, parce que la population s'était insurgée, parce que les équipes donc très à droite qui gouvernaient le pays, et qui étaient surtout des équipes membres de la même famille au pouvoir depuis des décennies, étaient en train de faire payer à la population, y compris la plus pauvre, pauvre partie de la population, les consignes du Fonds monétaire international. C'est-à-dire, le Fonds monétaire international avait prêté de l'argent que le Sri Lanka tardait à rembourser, et à un moment donné, le Fonds monétaire était venu taper sur la table, en disant « maintenant, il faut rembourser, ça suffit, etc. » menaçant des sanctions encore plus grandes, et exigeant encore des mesures de plus de services publics démantelés, moins de ceci, moins de cela. Bon, on imagine les purges FMI telles qu'on les connaît depuis des décennies en Afrique, c'était ça, mais purges très très fortes. Et donc la population s'était révoltée, le président de l'époque avait fui à l'étranger parce qu'il avait peur d'être renversé et molesté, et on avait pris quelqu'un un peu de la même tendance politique, toujours de cette droite au pouvoir au Sri Lanka, pour le mettre à prison. Et c'est ce président-là qui avait fini donc le mandat du prédécesseur qui avait fui devant les meutes populaires, qui a été remplacé ce samedi. Or, ce que le nouveau président, ex-marxiste, ex-communiste, a commencé à déclarer, c'est qu'il allait discuter dans le cadre des injonctions du Fonds monétaire international. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive au pouvoir, soi-disant parce que la population proteste contre les mesures qui sont déjà commencées et puis qui vont s'aggraver, dictées par le Fonds monétaire international, et puis il dit « bon, on va essayer de s'arranger ». Mais il n'y a rien à arranger, c'est-à-dire qu'il est en train de tromper son monde pour faire croire que lui, tout seul, parce qu'il a été élu avec 49% des voix, va pouvoir taper sur la table et dire « je ne paye pas ». C'est pas comme ça que ça se fait. Donc en fait, je tempère tout ce que vous avez pu lire ou entendre très très vite. Un président de gauche, oui, mais ça veut dire quoi un président de gauche si c'est en fait le Fonds monétaire international qui gouverne et qui prend les décisions importantes. Voilà ce que je voulais expliquer très brièvement sur la situation de ce pays, qui est une situation préoccupante et qui est dans un endroit instable, puisque vous savez que là, on est au sud de l'Inde. Vous savez qu'il y a eu un coup d'État avec la fuite de son président. président au Bangladesh cet été. Donc on est dans un endroit instable en ce moment de la géographie internationale. On y reviendra. Voilà, merci de votre attention. On se retrouvera bien entendu la semaine prochaine. Et l'émission, alors je l'annonce parce que je m'y prépare déjà, l'émission du mois d'octobre, donc l'émission du deuxième mercredi, sera consacrée à la géopolitique de l'eau. C'est-à-dire on expliquera comment le fait de maîtriser l'eau, en commençant par le cas d'Israël, permet d'assoiffer l'autre. C'est-à-dire, si vous maîtrisez l'eau, les puits, la rivière et tout le système d'adduction d'eau, vous pouvez faire mourir de soif votre adversaire politique. C'est un des dossiers les plus chauds de la planète pour le 21e siècle. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Sidi, d'être venu à mon secours.